que Renaud, vous êtes au pupitre, je vous en remercie. Donc on commence, vous avez un petit peu plus de temps que vos successeurs, vous aurez 15 minutes. Exceptionnellement. Et donc voilà, en tant que l'Ifremer, vous allez nous expliquer, puisque l'Ifremer a été plus ou moins mis en cause avec l'huître triploïde, eh bien, votre point de vue et votre analyse. Tristan Renaud, c'est à vous.
Merci beaucoup. Je ne sais pas, le micro marche ? Oui. Oui. Donc, bonjour, messieurs et mesdames les sénateurs. Bonjour, messieurs et mesdames. Tout d'abord, je voudrais remercier donc monsieur l'abbé pour nous donner l'occasion à l'Ifremer de partager un certain nombre d'informations concernant les polyploïdes chez les huîtres creuses. Et donc, je vais vous présenter un certain nombre d'informations concernant ces animaux-là. Donc, tout d'abord, revenir sur un certain nombre de points importants. Donc, simplement vous dire que dans le règne animal, les chromosomes sont généralement présents sous forme de paires. Et donc, c'est ce qui est représenté ici sous forme de 2N. Et on parle d'individus diploïdes. Par contre, chez certains individus, on peut avoir non pas des paires, mais des triplets. Donc, on parlera à ce moment-là d'animaux triploïdes. Ou bien, effectivement, des tétrades. Et on parlera d'animaux tétraploïdes, 4N. Chez les huîtres donc creuses diploïdes, le nombre de chromosomes est égal à 20, c'est-à-dire qu'il y a 10 chromosomes qui se présentent sous forme de paires. Donc c'est ce qu'on voit sur la petite figure qui est ici. Vous avez effectivement une plaque de métaphasique sur laquelle vous pouvez compter 20 petites croix, chacune des croix correspondant à un chromosome, et chacune de ces croix pouvant s'associer avec une autre pour former des paires de chromosomes. Alors chez l'huître triploïde, on a effectivement 30 chromosomes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des paires, on a des triplets, et donc on arrive effectivement à 30. Un point important, c'est les organismes polyploïdes, qu'ils soient tri- ou tétraploïdes, possèdent exactement les mêmes gènes que des animaux diploïdes, que des organismes diploïdes. Mais, par contre, ils ont plusieurs copies, une ou plusieurs copies supplémentaires de chacun de ces gènes, donc en fonction de leur état de ploïdie. Et simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de modification du génome, il y a exactement le même patrimoine génétique. Et simplement aussi rappeler, parce que tout à l'heure, il a été évoqué la trisomie chez l'homme ne touche qu'un seul des chromosomes. Là, l'ensemble des chromosomes chez un animal triploïde est sous forme de 3 et pas de doublet. Simplement ensuite, vous dire comment on obtient une huître triploïde. Donc c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais c'est quand même vous rappeler peut-être un certain nombre de choses. Il y a deux grandes approches. La première approche, c'est on va empêcher au moment de la fécondation l'expulsion d'une partie du matériel génétique à partir de l'ovocyte. Donc l'ovocyte, c'est la partie femelle, le gamète femelle. Il est 2N et normalement, quand les conditions sont naturelles, entre guillemets, il va y avoir à la fécondation, par le spermatozoïde qui est un N, expulsion d'une partie du matériel. L'ovocyte, normalement, devient N. Si on empêche cette expulsion au travers de l'utilisation de substances chimiques, on garde un ovocyte qui est 2N et on va le croiser avec un spermatozoïde 1N et à ce moment-là, on obtient des individus 3N. Une autre approche peut être utilisée. On va croiser dans cette seconde approche des femelles diploïdes, donc 2N, avec des huîtres mâles 4N, qui sont fertiles parce qu'elles possèdent un nombre pair de chromosomes et la nature est capable à ce moment-là de diviser par deux ce nombre de 4N. Et dans ce cas-là, on a un ovocyte 1N puisqu'il est issu d'animaux diploïdes, donc femelles diploïdes, et qu'on croise avec un spermatozoïde qui est 2N parce que issu d'un animal mâle 4N et on obtient encore une fois du 3N. Dans cette deuxième solution, dans cette deuxième approche, vous voyez qu'il est nécessaire d'avoir des animaux tétraploïdes. Et là, encore une fois, il est possible d'utiliser deux approches pour obtenir des animaux tétraploïdes. Une première approche qu'on appelle une méthode indirecte, parce qu'on passe par une étape de triploïdisation, donc par induction chimique, et on va en particulier utiliser des ovocytes issus de femelles triploïdes. Et ensuite, bien évidemment, on va utiliser ces animaux tétraploïdes pour refaire des triploïdes. Cette technique a été brevetée, et c'est en fait le brevet qui porte le nom de brevet Rudgers. Également, on peut obtenir des animaux tétraploïdes en croisant des animaux diploïdes ensemble. Et en particulier, on parle de méthode directe, puisque dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de passer par une étape de polyploïdisation. Et simplement vous dire que lorsqu'on croise des animaux 2N ensemble, on a majoritairement une descendance 2N, mais on a aussi un certain nombre d'individus qui présentent d'autres statuts chromosomiques. Hein, donc c'est aussi important. C'est-à-dire que dans une fécondation entre des animaux de zen sans ajouter quoi que ce soit, eh bien effectivement, il y a un certain nombre d'individus qui vont présenter des niveaux de ploïdie supérieurs à 2N. Également, vous dire que l'IFREMER a déposé un brevet en 2007 correspondant à l'obtention d'animaux donc tétraploïdes à partir de géniteurs diploïdes, de croisements de géniteurs diploïdes, et qu'également les animaux tétraploïdes sont fertiles. Et donc c'est un avantage entre guillemets, puisque à partir du moment où on a des animaux fertiles, on peut les faire se reproduire ensemble, et en particulier avoir un stock d'animaux tétraploïdes qu'on maintient. Et également, on n'a plus besoin d'utiliser des substances chimiques pour obtenir des animaux triploïdes. Concernant le rôle de l'IFREMER en matière de fourniture d'animaux polyploïdes, donc c'est à la demande de la puissance publique que depuis 1998, l'IFREMER produit des huîtres creuses tétraploïdes dans ses installations. Donc ce choix a été, cette solution a été retenue pour permettre effectivement de maîtriser au mieux les risques associés à l'utilisation d'animaux tétraploïdes et en particulier la fuite de ces animaux dans les échappements de ces animaux dans l'environnement. Donc aujourd'hui, et donc depuis 1998, chaque année, l'IFREMER va fournir entre 100 et 200 géniteurs mâles tétraploïdes aux écloseries, à certaines écloseries commerciales. Ces huîtres sont identifiées grâce à une puce électronique, hein, c'est ce qu'on observe sur la diapositive, vous avez une espèce de petite languette métallique, et donc qui va permettre d'identifier chaque individu. Ces individus vont être ensuite envoyés aux écloseries selon un mode opératoire et effectivement une traçabilité stricte. Et en particulier, les écloseries vont utiliser ces animaux. Et lorsque les animaux vont être utilisés, ils vont les renvoyer à l'IFREMER ou en particulier la coquille si les animaux ont été sacrifiés. Et de cette manière-là, l'IFREMER s'assure qu'il ne persiste pas d'animaux tétraploïdes dans les installations des écloseries commerciales. Également vous dire quelques mots sur le type de tétraploïdes fournis. Donc depuis 1998 et jusqu'en 2010, les animaux qui ont été fournis tétraploïdes étaient des animaux issus du brevet donc Rutgers. Et depuis 2010, ce sont des animaux qui sont issus du brevet déposé par l'IFREMER en 2007. Également des questions concernant le rôle de l'IFREMER à l'avenir en matière d'approvisionnement en tétraploïdes des écloseries commerciales. Donc le contrat d'objectif qui a été défini entre l'État et l'IFREMER pour la période 2014-2017 prend en compte une évolution qui est en particulier un transfert des techniques de production des huîtres creuses tétraploïdes vers des acteurs professionnels. Bien évidemment, il est nécessaire de développer un cadre rigoureux pour permettre cette transition maîtrisée. Et vous avez un extrait ensuite du contrat d'objectif sur lequel je vais parvenir de manière très longue, mais simplement vous dire qu'il était imaginé ou il était proposé que le transfert effectivement soit effectif en 2017. Bien évidemment, si l'ensemble des conditions ne sont pas réunies pour que ce transfert se fasse dans les meilleures conditions et en garantissant effectivement la sécurité pour l'environnement, l'IFREMER poursuivra son soutien à la filière dans ces conditions. Alors également, simplement, vous donner quelques éléments concernant l'utilisation des huîtres triploïdes et les aspects de risque. Et simplement vous dire que, bien effectivement, la production d'huîtres creuses triploïdes par la filière française a soulevé et soulève encore un certain nombre d'interrogations qui vont être d'ordre scientifique, éthique ou sociétal. Et l'État, comme l'IFREMER, ont souhaité très précocement disposer d'avis extérieurs et s'en sont remis pour cela à des expertises réalisées donc afin d'évaluer des risques éventuels sur différents plans, des plans génétiques, des plans environnementaux, ou le plan environnemental, et également la sécurité du consommateur. Ces expertises ont fait intervenir des experts extérieurs. Alors simplement un petit historique concernant les risques pour l'environnement. Il y a eu une première expertise qui a été réalisée en 1998, donc par Bernard Chevassieu-Louis, à la demande de la DPMA, et donc qui concernait l'effet d'un flux éventuel de tétraploïdes dans des zones conchylicoles, avec une évaluation de l'impact environnemental. Et puis également, en octobre 2004, l'IFREMER a sollicité le comité d'éthique et de précaution, donc COMEPRA, pour avoir un avis sur l'ostréiculture et les biotechnologies. Donc ces deux documents aboutissent à la même conclusion, qui est de dire effectivement les risques concernant l'utilisation de ces animaux apparaissent modérés, mais il reste important d'avoir une vigilance concernant le niveau au niveau du milieu quant à l'apparition de formes polyploïdes, donc en particulier dans les sites de captage naturel. Alors, ce qui a été mis en place par l'IFREMER dès 2001, c'est un réseau donc, qu'on a appelé biovigilance, et donc qui avait pour objectif de rechercher dans les sites de captage naturel. Donc vous avez trois sites ici, les trois sites principaux, donc que sont Marennes-Oléron, Arcachon et la baie de Bourgneuf. Et donc sur ces sites-là, de faire des prélèvements de manière systématique, annuellement, et de regarder dans les animaux collectés si on pouvait trouver des niveaux de ploïdie qui signaient la signature d'une reproduction d'animaux tétraploïdes ou d'animaux triploïdes. Et donc, ce réseau, globalement, son objectif était de dire si on détecte quelque chose d'anormal, du fait de la masse d'animaux diploïdes dans ces bassins, on pourra prendre des mesures et elles permettront de, effectivement, contrôler cette apparition et de réduire ou de faire en sorte qu'il n'y ait aucun effet sur les animaux de captage naturel. Alors également en 2009, un autre avis, donc avec quatre experts, Bernard Chevassiot-Louis, Gilles Boeuf, François Bonhomme et Michel Mathieu. Là, c'est une expertise qui a été sollicitée par le cabinet du ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans le contexte des mortalités importantes, massives, de naissins observées à partir de 2008. Et donc là, une des conclusions de ce rapport, c'est de dire que l'hypothèse d'une prolifération spontanée d'huîtres creuses triploïdes ou tétraploïdes dans les bassins conchylicoles ne peut pas être défendue. Donc je reprends les propos, ils sont entre guillemets, qui sont contenus dans ce rapport. Alors simplement vous donner quelques éléments, peut-être pour expliciter cette conclusion. Donc déjà, peut-être revenir sur la notion de stérilité. La notion de stérilité se définit comme l'incapacité pour une espèce de se reproduire et de produire naturellement une descendance durable dans le temps. Et donc la stérilité, elle peut être aussi due à une absence, bien évidemment, de production de gamètes, mais elle peut être aussi présente malgré la production de gamètes. La production de gamètes, c'est une notion différente de la stérilité, c'est la notion de fertilité. Et donc la fertilité n'est pas forcément associée à une capacité de reproduction, et donc c'est important. La stérilité aussi, elle peut être possible malgré la production d'une descendance, si cette descendance n'est pas viable et n'est pas durable dans le temps. Et en particulier pour les huîtres triploïdes, on a des informations. On sait qu'effectivement, ces huîtres triploïdes sont capables de produire des gamètes à des niveaux différents, souvent de manière très inférieure aux diploïdes. Et ce qui est aussi indiqué, c'est qu'on a des informations scientifiques montrant qu'on peut obtenir une descendance viable dans des conditions de laboratoire lorsqu'on fait des croisements artificiels. Et dans ce cas-là, on fait effectivement une dilacération des gonades, c'est-à-dire qu'on est obligé de sacrifier l'animal et d'utiliser un scalpel pour récupérer des ovocytes et des spermatozoïdes. On a fait des tests en laboratoire, on n'arrive pas à induire en condition de laboratoire, une ponte naturelle. Donc ça, c'est un élément important. Et puis également, on s'est rendu compte, au travers de différents travaux, que la descendance d'huîtres triploïdes, à la phase larvaire, présente une viabilité très inférieure à celle des huîtres diploïdes. Et enfin, simplement vous dire que l'émission de gamètes de manière naturelle par des huîtres creuses triploïdes élevées dans le milieu naturel n'a jamais été documentée. Donc c'est une question qui reste en suspens.
2 minutes.
Un avis de l'AFSA. Concernant effectivement les risques en matière, je dirais, de consommation, de risque pour le consommateur. Donc l'avis ici, vous voyez, indique que le caractère polyploïde des huîtres ne paraît pas constituer en lui-même un facteur de risque sanitaire. Au regard de l'existence de ces phénomènes, à l'état naturel, donc dans les règnes animal et végétal, et donc de son recul d'utilisation à des fins d'amélioration des espèces. Et puis, également, des risques concernant le secteur professionnel, donc là c'est les aspects mortalité. Donc je reviens au rapport qui a été produit en 2009, et une des conclusions aussi de ce rapport était d'indiquer qu'aucun élément scientifique ne permettait d'affirmer que le caractère triploïde d'une huître induit de plus forte mortalité et demeure à l'origine du phénomène de mortalité massive de naissins d'huîtres creuses rapporté depuis 2008. Et pour finir, simplement, donc, vous dire en matière de conclusion, l'utilisation des huîtres creuses triploïdes a été un choix collectif, que divers aspects scientifiques et techniques du dossier ont été pris en compte, et en particulier au travers d'expertises faisant intervenir des experts extérieurs, que également l'IFREMER n'a pas vocation à préconiser des choix en matière de production, et également n'a pas de vocation sur le long terme à développer une activité de production. Donc je vous rappelle ce qui a été dit par rapport au contrat d'objectif. Et enfin, vous dire que l'Institut a apporté, apporte et apportera son expertise pour les travaux et les analyses qui sont souhaités par la puissance publique sur cette thématique, bien évidemment, en vous remerciant de votre attention.